Microcité. Une émission de l'école de journalisme de Grenoble. 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Claire Dédon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h30 et vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble. On est ensemble jusqu'à 17h pour un nouvel épisode de Microcité, votre émission hebdomadaire d'information et de débat. Dans une dizaine de minutes, on va parler d'e-sport. Cette pratique de jeux vidéo en compétition prend de l'ampleur et se professionnalise. Adrien Beaujean reçoit deux acteurs de ce milieu en plein essor. En fin d'émission, vous écouterez le long format de Zoé Ruffy. Elle a rencontré le directeur du théâtre Prémol à Grenoble. Il rouvre ses portes demain après 4 ans de travaux. Un lieu de culture symbolique pour les habitants du quartier de la Villeneuve Village Olympique. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8, Microcité épisode 3, c'est parti. Tout de suite le journal avec Benoît Almeras.
Après l'accord de Brexit obtenu hier entre le Premier ministre britannique et la Commission européenne, c'est au tour du Parlement britannique de valider le texte. Un vote crucial y aura lieu demain. Margot Siffert nous dira pourquoi son issue est incertaine. Situation très volatile à la frontière turco-syrienne. Les États-Unis ont arraché une trêve des combats opposant l'armée turque aux forces kurdes. Une trêve qui doit durer 5 jours. Sera-t-elle respectée? Paul Tillier fera le point. La troisième édition du festival de musique Holocène s'ouvre ce soir à la salle Alpexpo de Grenoble. Les artistes émergents et une ambiance festive sont attendus. Le programmateur du festival nous en dira plus. On célébrera la journée du champagne qui tombe aujourd'hui 18 octobre. On s'est rendu chez un producteur de vin pétillant dans le Nord-Isère. Reportage à suivre en fin de journal.
C'est l'info de l'après-midi. Deuxième condamnation en un mois pour Patrick et Isabelle Balkany.
Le tribunal correctionnel de Paris jugeait le couple cet après-midi. Les Balkany sont reconnus coupables de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Patrick Balkany écope de 5 ans de prison ferme, Isabelle Balkany de 4 ans. Ils sont également condamnés à 10 ans d'inéligibilité chacun. Les Balkany ont exprimé leur volonté de faire appel. Le maire de Levallois-Perret et son épouse avaient déjà été condamnés pour fraude fiscale mi-septembre. Journée galère pour les usagers de la SNCF. Des cheminots ont fait valoir leur droit de retrait aujourd'hui pour réclamer plus de sécurité. Ce mouvement social fait suite à un accident à un passage à niveau avant-hier dans les Ardennes. La direction de la SNCF dénonce cet après-midi une grève sans préavis pas acceptable. La circulation des trains régionaux est encore fortement perturbée à quelques heures du départ pour les vacances de la Toussaint. L'Île-de-France, les régions PACA ou Auvergne-Rhône-Alpes sont notamment touchées par ce mouvement social. C'est un moment que Londres et Bruxelles attendent depuis plus de 3 ans. La Commission européenne et le Premier ministre Boris Johnson ont scellé hier leur accord sur le Brexit, un accord qui doit être encore validé par le Parlement britannique. Le vote doit avoir lieu demain et son issue est incertaine, Margot Siffert.
Tout à fait, Benoît, les Brexiteurs sont encore loin de pouvoir sabrer le champagne. Le destin de l'accord est désormais entre les mains des députés britanniques, mais rien n'indique qu'il obtiendra la majorité de 326 voix. Rappelez-vous, en 2017, Theresa May avait elle aussi trouvé un terrain d'entente avec Bruxelles, mais elle n'a jamais réussi à convaincre le Parlement. Le texte avait été finalement abandonné. Et la situation aujourd'hui au Royaume-Uni est encore un peu plus complexe qu'il y a 2 ans. Le nouveau Premier ministre Boris Johnson a perdu sa majorité. Il devra faire face à une opposition du parti nord-irlandais unioniste, le DUP, qui est pourtant son allié clé. Les parlementaires du Labour ont eux aussi appelé les députés britanniques à rejeter l'accord. Ils pourraient d'ailleurs même tenter d'obtenir demain un vote sur la tenue d'un nouveau référendum. Ces prises de position rendent donc assez improbable l'adoption du texte, alors même que le Royaume-Uni doit en principe quitter l'Union européenne le 31 octobre.
Et si l'accord est adopté par la Chambre des communes, le Parlement européen doit également voter le texte dans le courant de la semaine prochaine. Manifestation monstre aujourd'hui en Catalogne. Les manifestants dénoncent les peines de prison prononcées contre des leaders indépendantistes en début de semaine. Des cortèges partis de toute la Catalogne convergent en ce moment même vers Barcelone, la capitale régionale. Une manifestation monstre y est prévue à 17h. Le match de football FC Barcelone-Real Madrid, prévu la semaine prochaine, a été reporté par précaution. Le vice-président américain Mike Pence était en Turquie hier. Il a négocié un arrêt des combats entre l'armée turque et les forces kurdes stationnées dans le nord de la Syrie. Paul Tillier nous explique les détails de cette trêve.
120 heures de répit, c'est ce que la Turquie a accordé aux forces kurdes hier soir. Ankara veut créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Cela concerne un secteur d'une largeur de 32 km depuis la frontière. L'objectif ? Faire rentrer une partie des 3,6 millions de Syriens réfugiés sur le sol turc. Le président turc Recep Tayyip Erdogan laisse donc 5 jours à la milice kurde, le YPG, pour se retirer. Si ce retrait est effectif, l'opération Source de paix lancée la semaine dernière prendra fin et les sanctions économiques contre la Turquie seront levées. Alors du côté des États-Unis, on se félicite de ce cessez-le-feu, des millions de vies vont être sauvées, a tweeté Donald Trump. En revanche, côté turc, le terme cessez-le-feu a été balayé d'un revers de la main, on parle bien ici d'un arrêt temporaire des combats. Pour résumer, la situation reste précaire, malgré la trêve, des tirs d'artillerie ont été entendus ce matin dans le secteur de Ras Al Ain, dans le nord de la Syrie.
Depuis le début de l'offensive turque, on dénombre près de 500 morts, 300 000 personnes se seraient déplacées pour fuir les combats selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
16h35 sur Campus Grenoble, la suite du journal.
Le festival de musique Holocène, ça démarre ce soir à Grenoble. Pendant 2 nuits, musique électro, pop et rap vont animer la salle Alpexpo, l'aboutissement d'un an de travail pour caler des artistes. Mais pour Robin Direr, l'un des organisateurs d'Holocène, un festival, ce n'est pas que de la programmation.
Ce qui est bien quand on est sur un festival et quand on est à l'organisation d'un festival, c'est qu'on a plus de liberté qu'un simple concert en salle, c'est qu'on peut y ajouter plein de choses, il va de la communication au food truck, des animations qu'on va y mettre à l'intérieur, la possibilité d'avoir plusieurs scènes. Donc l'idée principale c'est d'un festival se démarquer, je pense que c'est de créer un moment, créer un univers, créer une immersion. Là on a axé davantage sur le festival avec Lorenzo, on va faire des concours de déguisement. Enfin, les festivals qui se démarquent souvent, ils arrivent à remplir sans la programmation, donc c'est qu'il y a une raison. C'est que ces festivals-là, ils ont du contenu, ils ont un public qui est fidèle.
Parmi les têtes d'affiche du festival, Lorenzo, Hocus Pocus, Iselt ou encore Offenbach, les organisateurs espèrent attirer près de 15 000 spectateurs. Les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby débutent demain matin. Deux duels Nord-Sud à l'affiche, Angleterre-Australie à 9h15, suivi de Nouvelle-Zélande-Irlande. Le 15 de France se mesurera au Pays de Galles dimanche matin. Longtemps incertain, le demi de mêlée Antoine Dupont et le 3 quart aile Damien Penaud seront bien titulaires. La 10e journée de Ligue 1 de football débute ce soir. L'OGC Nice reçoit le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Un PSG amoindri, les attaquants Kylian Mbappé et Edinson Cavani seront remplaçants. On célèbre aujourd'hui la journée du champagne, un événement commercial organisé par les grandes marques de la région de Reims dans la Marne. Plus près de nous, en Isère, des viticulteurs produisent également un vin pétillant. Ça ressemble à du champagne, ça a le goût du champagne, mais ce n'est pas du champagne. Antoine Loistron a rencontré un producteur à Saint-Chef, près de la ville de Bourgoin-Jallieu.
Noël Martin a 74 ans et il vient de conclure une nouvelle saison de vendange. La cueillette se fait toujours à la main, comme depuis 1974 lorsqu'il a produit ses premières bouteilles de vin pétillant.
Au début, ça a été assez compliqué parce que les vins de l'Isère n'avaient pas une très bonne presse, voyez. Quand on allait dans les restaurants au départ ou la vin de l'Isère, on était viré.
Mais son envie est quand même restée. Il voulait une chose, perpétuer une tradition de vin effervescent produit dans le village depuis 1858. Et il apprend au fur et à mesure des anciens.
Ils avaient un savoir-faire très très important qui m'ont transmis. Et puis après, je me suis perfectionné aussi en champagne, voyez.
Aujourd'hui, il donne progressivement à sa fille les clés du domaine. Chaque année, 50 000 bouteilles de mousseux sortent de leur cave. Et en l'absence de l'appellation champagne, Aurélie Martin compte sur d'autres critères.
Avant tout, ça a été le bouche à oreille et de perpétuer à chaque fois la qualité. Chaque année, être toujours présent là-dessus, c'était primordial. Et de pouvoir contrôler le produit de A à Z, c'est pour ça que tout est fait intramuraux.
La famille joue aussi sur les prix. Chez le caviste, leurs bouteilles sont 3 fois moins chères que le champagne d'entrée de gamme.
Reportage d'Antoine Loistron, promis clair, on débouchera une des bouteilles produites par Noël Martin à la fin de l'émission.
Et c'est à consommer avec modération, bien sûr, et on ne prend pas le volant après avoir bu. Merci Benoît et à tout à l'heure pour le rappel des titres.
Microcité jusqu'à 17h.
16h38 sur Campus Grenoble, on se retrouve dans quelques minutes pour le dossier d'Adrien Beaujean sur l'e-sport. Avant ça, un peu de musique et on reste dans le thème des jeux vidéo.
I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take our body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play a video game.
You my link to the past, cause we go way, way back. Top that ass, like an Xbox pad. I'll be your Mega Man, you'll be my Princess Peach. I'll take you everywhere,
PSP, you know me, I'll be there. You need money, I got spares. You cheating, I don't care, cause I do my fair share. You killing shit, fatality. All these other bitches is mad at me, cause you got that strategy that makes me one of your casualties. Let me play you like a fucking video game. I'll plug myself in and enter the name. I'll get you high score. It's all I'm asking for. Number one, forever and more. Let me play you like a fucking video game. I'll plug myself in and enter the name. I'll get you high score. It's all I'm asking for. Number one, forever and more.
Yeah, you play it too, but you my number one. In fact, you make my heart bump, bump like a rumble pack. You got it great, and you love playing with my solid snake. You going in with me, you my life, you my plus one. I'm shooting other birds down, fuck 'em, duck hunt. I'm your hero, you in any kind of harm, then you should say so. I'ma take you round the world like Carmen San Diego. Applause, I want you so bad, 6 stars and ah.
C'était Video Games de Left Boy et des jeux vidéo, on en discute tout de suite sur Microcité 90.8. On est ensemble jusqu'à 17h.
Le dossier.
Fortnite, Overwatch, FIFA, ces jeux vidéo en ligne rassemblent des millions de joueurs à travers le monde. Mais pour certains, c'est plus qu'un loisir, c'est une pratique sportive. On appelle ça l'e-sport et qui dit sport dit entraînement, compétition, mais aussi structure et équipe. Adrien Beaujean, vous vous êtes penché sur l'essor de ce phénomène.
Tout à fait, et on va s'intéresser plus particulièrement au développement national et local du e-sport. Alors, pourquoi parler de ce sujet ? Eh bien, parce que c'est en plein boom. En 2018, 5 millions de personnes et 2 millions de gens l'ont pratiqué ou regardé sur le net, à la télé ou au cours d'événements divers et variés, selon l'association France e-sport. Alors oui, bien souvent, on résume l'e-sport en chiffres. Un jeune de 16 ans a gagné 3 millions de dollars en remportant la Coupe du Monde de Fortnite. Ok, on met l'accent sur la somme gagnée, l'âge du lauréat, mais jamais sur tout ce que ça englobe. L'e-sport, c'est du sport. On a des entraînements, de la compétition, on se bat pour la meilleure performance possible, on se dépasse, on fait partie d'une équipe. Prenons l'exemple de Grenoble. Le FCG, un club de rugby professionnel, a créé il y a quelques mois sa propre section e-sport. Olivier Chepet, bonjour, vous êtes à l'origine de ce projet. Mais l'e-sport, c'est également un milieu qui se professionnalise à vitesse grand V. Franck Eliès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet événementiel chez NTWU et membre de Futurolan. Donc c'est une association qui organise la Gamers Assembly chaque année. Mais avant ça, avant de commencer notre dossier, écoutons Nathan, joueur semi-pro au FCG qui joue à un jeu de cartes compétitif en ligne, Hearthstone. Pour lui, c'est un peu plus qu'un jeu.
L'avantage de Hearthstone, c'est que c'est un jeu en ligne, donc on peut faire des tournois en ligne sans bouger de chez soi. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à gratter sur papier avant même de jouer, parce qu'en tournoi, il y a beaucoup de préparation, on a des stratégies à élaborer. J'y pense en cours, bon, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des choses, mais bon, si j'ai une idée qui me passe la tête, ben, je la note. Le soir, en général, j'essaye d'attribuer une heure par soir en semaine à Hearthstone, et le week-end, ben, quand j'ai le temps et la motivation, un peu plus.
Écoutons maintenant un second témoignage, celui de Sébastien, dit Gaz, son pseudo dans le jeu Overwatch. Il est capitaine de l'équipe de ce même jeu pour le FCG Sport. Il nous parle de sa condition et de son ambition locale.
Pour le moment, on se contente de semi-pro. Pour être professionnel, il faut s'y mettre à plein temps. On n'a pas de gros championnat en vue, du coup on est sur 4 entraînements par semaine pour faire la stratégie ou d'études d'équipe adverse ou de notre propre équipe. Sans compter tout l'entraînement personnel que chacun fait à côté, parce que pour avoir un niveau adéquat, on joue tout le temps. On a eu envie de faire l'équipe officielle de Grenoble, donc on allait chercher des sponsors, on a fait les choses correctement. On montre les couleurs du club, notre ville surtout. C'est ça qui nous fait vraiment plaisir, le club et la ville. Notre association fait désormais partie du FCG.
Voilà, donc Franck, Olivier, qu'est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à ça, à Sébastien et à Nathan, leur expérience et le développement du e-sport d'un point de vue local?
Alors nous, on est très heureux d'avoir accueilli Nathan, Sébastien et toute l'équipe
désormais FCG eSport depuis quelques mois sous l'égide du FCG. Nous, on les accompagne dans leurs tournois, dans leur préparation, dans leur développement pour aider cette équipe et pour aider Grenoble à émerger dans ce domaine de l'eSport.
Voilà, Sébastien parle du statut de semi-pro. Pour expliquer un petit peu aux gens, c'est quoi un joueur semi-pro aujourd'hui, un joueur e-sportif semi-pro ?
Alors un joueur semi-pro, on va dire au FCG, il ne gagne pas d'argent, mais on l'accompagne. Aujourd'hui, on finance le développement et toutes les dépenses de l'équipe annuelle. Donc ça va des déplacements, des inscriptions au tournoi, de l'hébergement, des choses comme ça. Plus on leur met à disposition les préparateurs physiques et mentaux du club de rugby pour les aider à progresser sur des aspects non e-sportifs purs.
Donc il y a un vrai lien entre du coup, la section rugby pro et du coup, la section e-sport qui s'est créée il y a quelques mois.
Absolument, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, plus après tous les aspects logistiques, communication sur lesquels on les accompagne également.
D'accord, donc là on est bien au-delà voilà, du joueur chez lui qui joue en loisir, on est vraiment sur voilà, quelqu'un qui joue chez lui mais qui fait aussi des compétitions. Comment on démarche des joueurs actuellement en France? Comment on fait pour attirer des joueurs? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers eux?
Alors pour le coup, sur le jeu de Overwatch, ça a été une rencontre commune on va dire, puisque nous ça faisait quelques temps qu'on cherchait à intégrer l'e-sport au FCG et à un moment on a simplement fait un appel aux Grenoblois et aux habitants de Grenoble de savoir si quelqu'un était intéressé par venir nous rejoindre. Et l'équipe Overwatch de Gaz était déjà constituée. On les a reçus, on les a rencontrés, on a échangé, ça a matché. Et depuis, on travaille ensemble.
D'accord. Franck, vous avez un regard un peu plus national avec votre association et votre travail à plein
Tout
temps.
À fait.
Qu'est-ce que vous observez en Isère par rapport au développement du e-sport?
En Isère, on observe des exemples assez précurseurs, exactement comme la démarche d'Olivier du club du FCG, justement en se disant on va pouvoir intégrer une équipe e-sport pour plein de raisons différentes, pour créer un nouvel actif dans notre club, pour améliorer notre licence, pour avoir un bénéfice d'image assez rapide. Et c'est une démarche qui est assez soutenue dans pas mal de clubs en France du fait des circonstances locales. Effectivement, il y a une équipe qui performe un petit peu, etc., par les biais de connaissances, ils se rapprochent d'un club local et ça commence comme ça, un petit peu en amateur ou en semi-pro. Et il y a les clubs effectivement qui ont compris que dans les 2 à 3 ans à venir, il y allait avoir un tournant à prendre et il y a ceux qui seraient en retard et ceux qui l'auraient pris à 100 à l'heure, quoi. Et on va dire que là, oui, dans les 2 ans, je pense qu'il va y avoir une grosse émergence de clubs e-sport. Et ces clubs locaux, c'est vraiment la base du futur circuit national, quel que soit le jeu qui va être émergent avec tout ce qui va derrière, hein, qui est le cœur de mon métier, donc en termes de production, les médias, les sponsors, comme disait Olivier, il y a aussi tout ce qui gravite là maintenant autour du secteur du sport, la préparation physique, parce qu'il y en a, la préparation mentale, la cohésion d'équipe, les entraînements, etc. Il faut des infrastructures et les clubs de sport seront en première ligne pour créer ces nouvelles équipes e-sport.
Excusez-moi, vous parlez de préparation physique, d'entraînement physique. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi c'est physique de jouer aux jeux vidéo ?
C'est physique parce que déjà, il faut être en bonne condition physique. En situation de stress, si on n'est pas bien préparé physiquement en termes de cardio, en termes de préparation mentale, parce qu'effectivement, dans le jeu vidéo, effectivement, si on se dit le sport, c'est uniquement être à 240 BPM pendant 10 secondes pour faire un 100 mètres, c'est très réducteur, c'est pas du tout ça. Il faut être en très bonne condition physique et les préparateurs qui officient pour le rugby, le foot ou n'importe quel autre type de sport le savent très bien. Et c'est tout à fait applicable aux joueurs d'e-sport. Également au niveau diététique du sport, pour avoir des réflexes ultra rapides et avoir au niveau du gameplay, de la manière dont on joue avec ses coéquipiers, il faut être extrêmement alerte. Ça passe aussi par la préparation physique et qui agit sur le mental, finalement.
Et il y a plusieurs cas où on a vu qu'avec une préparation physique dédiée, les performances étaient meilleures en e-sport.
Oui, tout à fait, c'est documenté. Éprouvé.
D'accord. Et en termes de développement un peu plus global à l'échelle nationale, est-ce que vous direz que la France, elle est en avance, en retard? Est-ce qu'elle se développe suffisamment rapidement par rapport à d'autres pays à l'échelle du monde?
Je pense qu'on est en Europe, on est très très bien placé avec l'Allemagne et d'autres pays d'Europe de l'Est qui ont une grosse émergence, en Pologne par exemple. Mais l'Europe est de manière générale assez avancée, alors pas forcément sur les mêmes jeux. Si on prend l'Asie, ils sont en avance sur nous depuis très longtemps. Mais par contre, on n'est pas du tout à la traîne comparé à d'autres pays. Enfin, on a notre carte à jouer, et puis en plus, on a des infrastructures qui se mettent en œuvre comme France eSport. Je parle vraiment de, voilà, au niveau français, pour faire avancer la législation surtout, et pour une hypothétique future fédération très encadrée, très avec des clubs et des filières pour entrer dans le milieu, un peu comme ce qu'on connaît actuellement pour les sports traditionnels.
Donc du coup, là, vous direz que c'est ça qui manque actuellement, c'est une fédération française du e-sport ?
Concrètement, oui, mais on y travaille et les bases sont déjà posées. Déjà, le simple fait d'avoir France e-sport, comme je le répète, qui est interlocuteur avec l'État et les ministères qui sont impliqués dans les sports habituellement, voilà.
D'accord. Pour revenir peut-être un peu plus au FCG, spécialement à la section e-sport du FCG, pour l'instant, vous avez 7 joueurs qui sont entre guillemets semi-pro pour vous, avec une équipe d'Overwatch du coup composée de 6 joueurs et un autre joueur individuel qu'on a entendu précédemment, Nathan, qui est sur lui Hearthstone. Est-ce qu'à terme, vous avez des objectifs peut-être sur d'autres jeux ou pour développer des structures ?
Alors, on aura un troisième jeu bientôt qui va être annoncé bientôt, donc ça, on réserve la surprise. Mais l'idée, ce serait d'avoir une structure qui compte d'ici à 2-3 ans une dizaine de jeux. Avec des niveaux différents, forcément on n'aura pas forcément les meilleurs français sur tous les jeux, mais l'idée ce serait vraiment de rassembler les meilleurs grenoblois, en tout cas au moins dans un premier temps à Grenoble dans la structure FCG.
D'accord, et est-ce que pour l'instant vous estimez que le maillage local il est assez puissant ? Est-ce qu'à Grenoble il y a vraiment de quoi faire ? Est-ce qu'il y a des gens qui se bougent ?
Je pense qu'il y a des gens qui bougent, par exemple quand on a fait notre appel justement pour recruter des joueurs, on a reçu une soixantaine de candidatures sur plein de jeux différents. Aujourd'hui on n'a pas les capacités d'assumer 60 joueurs ou même 60 recrutements, mais l'idée c'est monter petit à petit, montrer que le FCG eSport existe, que les joueurs d'eSport à Grenoble peuvent avoir cette structure là s'ils en ont besoin ou l'envie ou la capacité, et voilà, et se monter petit à petit ensemble.
Ouais, c'est pour faire un peu rappel à ce que disait Sébastien dans le son précédemment, c'est voilà, lui, il voulait l'équipe de Grenoble, il voulait représenter entre guillemets sa ville, ses amis, etc. Est-ce que à terme, l'objectif aussi du FCG, c'est peut-être de mêler le public du rugby avec celui du e-sport. Est-ce que c'est un objectif ?
C'est plus qu'à terme, ouais. Ça, c'est vraiment c'est presque le premier objectif qu'on a eu en créant cette structure e-sport. Donc on va commencer dans quelques jours, quelques semaines, à mettre en place des outils de communication, enfin des publications communes, des vidéos communes entre les joueurs e-sport et les joueurs de rugby. On va mettre en place, on espère, d'ici à plus long terme, un espace e-sportif qui serait pas loin du club de rugby et de nos centres d'entraînement. Et on espère aussi, on va travailler avec Franck dessus sur l'organisation d'un événement e-sport à Grenoble et qui pourra mêler les deux univers.
Si je peux juste rebondir là-dessus, effectivement, pour les clubs, c'est un enjeu ultra important de créer le lien intergénérationnel, je pense, entre effectivement peut-être toute une communauté qui suit le rugby, qui les entraînements, les matchs, etc., mais qui aussi joue aux jeux vidéo, et de lier une famille, voilà, les parents, les enfants qui jouent à Fortnite le soir ou à n'importe quel autre jeu. Ça serait vraiment une réunion de famille s'il y avait effectivement comme ça une filière e-sport et le rugby, le foot, etc., au même endroit, dans le stade, dans les infrastructures du stade, et tout ça a vocation en fait à évoluer ensemble avec les mêmes moyens, les mêmes infrastructures.
D'accord. Et donc là, à terme, du coup, l'objectif, voilà, c'est le public du dimanche ou du samedi après-midi du rugby qui viennent avec le public des joueurs e-sport, et du coup, voilà, créer des rencontres.
Tout se mélange.
Exactement. Voilà. Il peut très bien y avoir un match, avoir des show matchs de l'équipe du FCG en même temps que l'équipe du FCG rugby qui a un entraînement ou qui a un match, etc., et créer vraiment une synergie autour de ça.
D'accord. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous estimez actuellement qu'il y a suffisamment d'événements ou suffisamment d'initiatives en Isère pour développer le e-sport ?
Il n'y en a pas, mais il faut le faire.
Exactement. On va dire qu'il y a tout à bâtir et qu'il y a un petit retard qui a été accumulé, je pense, par Grenoble, qui n'est pas non plus une petite localité. Mais par contre, il y a des forces vives et des gens qui ont envie. Il n'y a plus qu'à.
D'accord. Donc, pour faire un petit bref bilan un petit peu de ce dossier, Olivier Spett, vous êtes du coup à l'origine du projet de la section e-sport au club de FCG, donc un club de rugby professionnel. Et vous, Franck Elias, vous êtes chef de projet événementiel chez NTWE. Et pour vous, la France n'est pas en retard sur le e-sport, elle se développe suffisamment. Et du coup, elle peut peut-être un jour rattraper l'Asie ou les États-Unis. Et on est en attente.
On a déjà des équipes françaises qui sont projetées dans des tournois internationaux aux États-Unis ou en Asie et qui performent. Donc il suffit après maintenant de faire ça quasiment tout le temps. Et il n'y a plus qu'à.
Merci à vous deux, merci à Adrien Beaujean. 16h54 sur Microcité 90.8, l'heure du long format.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Demain, c'est le grand jour pour le théâtre Prémol dans le quartier de la Villeneuve Village Olympique. Il avait pris feu il y a 4 ans et les travaux sont maintenant terminés. Il rouvre ses portes à partir de 18h et jusqu'à 8h du matin. Les artistes vont se succéder sur scène. Zoé Ruffy a rencontré le directeur.
Le programme sera chargé. Demain soir, l'équipe de la MJC a mis les petits plats dans les grands pour assurer cette nuit de fête. Donatien de Hauteclocque, directeur de l'association, détaille le programme.
Tout au long de la nuit, 18 spectacles qui vont s'enchaîner entre la musique, les chorales du quartier, la Batoukavi, Ali Djilali qui va venir lire des textes, la compagnie des petits pois qui va revenir lire d'autres textes, des vidéos, des danses.
Seul ou en troupe, professionnels et amateurs, les artistes veulent aujourd'hui rendre hommage au théâtre Prémol, car cette soirée représente bien plus qu'une fête. Pour le directeur, c'est une renaissance après 4 ans de tristesse.
Il avait été victime d'un incendie criminel le 18 avril 2015. Et lors de cet incendie, on était resté toute la nuit dehors pour voir brûler malheureusement le bâtiment, en sachant qu'il y avait une représentation à l'intérieur à l'époque de cette soirée. Et du coup, voilà, elle a une valeur symbolique pour tourner la page et puis pour passer et pour continuer le travail qui était fait, puisqu'on n'a pas arrêté de travailler pendant 4 ans. Et l'idée, bah, c'est de faire un petit clin d'œil 4 ans et demi après, en disant, bah voilà, on réouvre. Et du coup, venez faire la fête toute la nuit cette fois-ci, mais pour des choses plus joyeuses.
Une réouverture qui s'est imposée très vite après l'incendie. Ce lieu de culture est depuis 50 ans ancré dans le quartier. Samia, habitante de Villeneuve, se souvient de sa rencontre avec le théâtre.
Je connais le théâtre Prémol, ça fait très longtemps d'ailleurs. Je sais que j'en garde un très bon souvenir depuis jeune fille. Je m'en souviens, il y avait du théâtre, mais nous c'était avec l'école. On venait là regarder et tout des pièces de théâtre.
Car Prémol, ce n'est pas seulement une salle de spectacle. C'est un lieu de rencontre et d'échange dans un quartier où les habitants se sentent souvent éloignés de la culture.
Les enjeux, c'est sur un territoire où il y a une population qui est assez pauvre, hein, très concrètement, puisque le revenu médian moyen est de 9 800 euros pour les familles habitant le quartier. Que nous, on travaille sur la médiation auprès de ces publics avec les acteurs culturels, artistes, on va dire, et qui viennent prendre du temps de résidence chez nous pour ensuite présenter leurs travaux et travailler à la rencontre de ces différents arts avec les populations locales.
Et pour faire passer les portes du théâtre, les artistes et les membres de Prémol organisent des ateliers tout au long de l'année.
On fait en sorte que nos habitants du quartier puissent être des acteurs de la culture et donc pratiquent. Donc on a des temps forts spécifiques, des moments privilégiés, donc là réservés à tout le monde. Et puis un travail spécifique qui est fait sur un groupe de jeunes qui s'appelle l'Axe de création, qui chaque année fait une création avec une présentation de spectacle sur 3 dates.
Preuve de l'enthousiasme suscité par cette réouverture, les premiers spectacles de la soirée se feront à guichet fermé.
Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre leur place, ils pourront assister à une retransmission dans la salle d'à côté. 16h57 sur Microcité, le rappel des titres avec Benoît Almeras.
Deuxième condamnation en un mois pour Patrick et Isabelle Balkany. Le couple écope de peine de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le maire de Levallois-Perret et son épouse ont déclaré vouloir faire appel. Le Parlement britannique se réunira demain pour voter l'accord de Brexit conclu par le Premier ministre Boris Johnson et la Commission européenne. Un vote crucial avant le 31 octobre, date butoir fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Manifestation monstre en Catalogne, en Espagne. Des cortèges venus de toute la région convergent en ce moment même vers Barcelone, la capitale régionale. Les manifestants dénoncent les peines de prison prononcées contre des leaders indépendantistes en début de semaine. Des escarmouches ont opposé aujourd'hui l'armée turque aux forces kurdes dans le nord de la Syrie. La situation est encore très tendue à la frontière turco-syrienne, malgré la trêve des combats obtenus par les États-Unis hier après une semaine de combats.
Presque 17h sur Radio Campus Grenoble et c'est l'heure de se dire au revoir. Je remercie toute la rédaction, mais aussi Paul Tillier et Louis Oscovin qui étaient à la technique. Microcité, par contre, ne revient que le 8 novembre, on est désolé. Mais en attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur campusgrenoble.org. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter pour suivre toute l'actualité de Microcité. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.